Bienvenue sur le podcast Nées en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessibles des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leurs récits d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie de Marie, accouchée sereinement. Voilà comment je vais présenter Marie qui est en face de moi, car c'est comme ça que j'ai fait sa découverte sur Instagram. Donc déjà, vu le nom, je ne pouvais qu'être attirée par son compte. Donc bienvenue Marie, bonjour.
Et bonjour, merci.
Alors, comme je le disais, je t'ai découverte sur Instagram, je suis arrivée sur ton compte, et ce que j'y ai lu, ce que j'y ai senti, ça m'a attirée, j'ai eu envie d'en lire plus. J'ai lu plusieurs posts et je suis tombée sur un récit d'accouchement qu'on entendra certainement aujourd'hui, n'est-ce pas?
Avec plaisir.
Et donc, c'est moi qui t'ai invitée, qui t'ai proposé de venir témoigner et qu'on puisse bénéficier de ton expérience, de ton témoignage, de ton vécu. Alors, chère Marie, est-ce que tu veux tout d'abord te présenter comme tu as envie en cette belle matinée?
Du coup, je suis Marie et je pense que ce qui me définit le plus aujourd'hui dans ma vie, c'est le fait d'être une maman. Et donc, je suis la maman de Liam qui a 10 ans, de Yael qui a 4 ans et de Caleb qui a 4 mois. Et je suis aussi une amoureuse de mon conjoint et du papa de Yael et de Caleb.
Super, magnifique. Est-ce que tu es également doula, n'est-ce pas?
C'est ça mon parcours de maternité, mes grossesses et mes naissances m'ont amenée à être de plus en plus proche des femmes dans cette période de leur vie et d'avoir envie de les accompagner dans cette transformation qui est quand même surprenante parfois et bousculante beaucoup aussi. Et c'est important, je trouve, de pouvoir avoir une oreille attentive et une personne expérimentée qui peut nous rassurer sur le chemin qu'on a choisi.
Je plus sois.
Hmm.
Alors Marie, est-ce que tu veux nous raconter donc les prémices? Comment tu étais avant d'avoir ton premier enfant? Quelle était ta vision de l'accouchement? Quel était ton héritage? Et puis ensuite, si tu veux nous raconter avec ta relation, avec la personne avec qui tu étais à ce moment-là, comment est-ce que vous avez accueilli ce premier enfant?
Alors moi, je suis aussi la grande sœur. Je suis une aînée d'une famille. On est 4 enfants. Et c'est vrai que du coup, je pense que j'ai un côté très maternel qui s'est développé très tôt dans ma vie. Et j'ai accompagné mes frères et sœurs aussi. Et ça m'a tout de suite parlé, la maternité des petites, dès ma jeunesse. Je savais que j'allais avoir des enfants. C'était quelque chose qui était assez ancré. Et puis j'ai une maman qui a allaité aussi, qui nous a allaités tous les 4. Et du coup, pour moi, l'allaitement, c'était aussi hyper naturel. Après, la naissance en elle-même, c'est quelque chose que j'ai cheminé pendant ma première grossesse. Donc, mon premier enfant, c'est un bébé qu'on a voulu avec son papa, mon conjoint de l'époque, qui a mis un petit peu de temps à s'installer, quelques mois. Et puis, une fois qu'il était là, j'étais vraiment comblée par cet état de grossesse. Je me sentais vraiment bien. Pendant toute ma grossesse, ça a été un très beau moment. Et j'avais une connexion assez naturelle à justement à la nature, au corps. J'avais déjà à l'époque une démarche très liée à l'écologie, au respect de notre environnement. Et pour moi, en fait, ça allait de pair aussi avec le respect de notre nature mammifère, animale, en tant qu'être humain. Et donc, dans cette continuité-là, ma grossesse n'a pas fait défaut à cette philosophie et j'avais envie d'accueillir mon enfant dans des conditions qui soient saines, qui soient douces aussi. Et je pense que j'avais aussi cette envie, comme c'était un premier bébé, de voir si j'étais capable. Il y a aussi ce petit truc souvent quand on part sur une naissance naturelle, c'est est-ce que je suis capable? Parce que on nous fait tous douter de ça, de notre capacité à mettre au monde notre bébé comme on est prévu pour le faire. Et donc j'ai eu tout ce petit doute pendant la grossesse, mais c'était vraiment quelque chose que je souhaitais. Je me suis renseignée sur bah, est-ce qu'il y avait une sage-femme près de chez moi? Donc malheureusement, elle était un peu loin et le papa n'était pas partant pour ce genre de projet. En revanche, j'ai cherché une maternité où on pouvait accoucher en salle nature. Je me suis faite accompagner par une sage-femme qui était très orientée vers la physiologie, justement, qui nous a fait des préparations à base d'autonomie. Donc, on s'est connecté avec notre bébé pendant la grossesse grâce à ça. Et puis, elle a pu aussi nous accompagner par rapport à la préparation sur la naissance, avec des techniques de gestion des contractions. C'est elle notamment qui m'a appris un outil que j'adore et que j'ai utilisé à chaque fois, qui est la suspension. Et du coup, de pouvoir venir m'étirer pendant les contractions. C'est quelque chose que, voilà, qui a été magique le jour J et qui a été très efficace. Donc, je la remercie pour ça, cette femme. Donc, voilà, on était vraiment sur ce projet de naissance physiologique. J'étais plus convaincue que mon conjoint, qui attend de te voir. Et puis, moi, j'étais assez sûre de moi quand même sur ce projet. Même si on ne sait jamais comment ça va se passer le jour J. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que c'était un week-end. J'étais à 2, 3 semaines du terme. Et j'ai eu l'impression que j'avais fissuré ma poche. Donc on est allé faire un petit contrôle à la maternité. Petite erreur de débutante d'aller tout de suite vérifier à la maternité alors que peut-être il se passait pas grand-chose. Mais bon, on y est allé et par chance, en fait, j'avais pas fissuré et le monitoring n'a pas montré de contraction. Et donc, ils m'ont dit de rentrer chez moi, ce que j'ai fait. Je suis rentrée chez moi. J'ai mangé tranquillement, j'ai été me coucher, j'ai passé une très bonne nuit alors que la semaine précédente, j'avais quand même des contractions qui se déclenchaient régulièrement. Et le matin, quand je me suis réveillée, pareil, j'ai démarré ma journée tranquillement, j'ai pris mon petit déjeuner. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se mettait en route, qu'il y avait des contractions qui étaient plus efficaces, que je pouvais plus rester assise, que j'ai dû commencer à me lever, que j'avais envie de ranger des choses dans ma maison, qu'il fallait que je bouge en fait. Et c'est là que j'ai aussi commencé à me suspendre. Aux portes, aux meubles, et puis après à mon conjoint, parce que ben, ça me soulageait vraiment très bien, et j'étais pas du tout dans des sensations douloureuses. C'était juste que j'avais ce besoin de mouvement qui était très présent. Et donc, comme j'avais été pour rien à la maternité la veille au soir, je me suis dit, bon, je vais attendre sagement que ben, tout ça soit vraiment avancé et qu'on n'aille pas à la maternité pour de nouveau se faire renvoyer pour qu'on nous dise que il se passait rien. Et donc, au bout de 2 heures, parce que moi j'avais eu cette information-là, comme quoi il fallait attendre 2 heures de contraction toutes les 5 minutes, que pour un premier bébé, il fallait pas trop se précipiter. Au bout de ces 2 heures, l'intensité avait quand même bien augmenté. J'ai tant bien que mal réussi à mettre mes chaussures. Et puis, j'ai une nouvelle contraction qui est arrivée et là, je me suis suspendue à mon conjoint et j'ai senti comme un crack dans mon bassin. Alors, ce n'était pas la poche des os, mais vraiment, j'ai senti mon bébé descendre d'un coup et venir s'intégrer dans mon bassin. Et du coup, j'ai dit au papa, ben là, moi, je ne peux plus partir d'ici, c'est terminé. C'est trop avancé, je peux plus bouger. J'avais des escaliers à descendre, plus la voiture pour aller à la maternité. Et là, j'ai senti que voilà, j'étais arrivée à une étape de la naissance où le déplacement était impossible. Donc je me suis mise à quatre pattes. Je pouvais plus faire autre chose que d'être près du sol. Et mon conjoint, du coup, a appelé les pompiers. Voilà, parce que je lui ai dit que je ne pouvais plus bouger, donc il s'est dit, bon, il faut que j'appelle les secours, il nous faut de l'aide. Donc les pompiers sont arrivés. Oh. Qu'est-ce que tu veux faire, bébé? Tu veux aller te coucher?
On est en bonne compagnie.
C'est ça. C'est à l'aide. Attends. Oh.
Oui.
Donc les pompiers sont arrivés et ben voilà, ils ont vu qu'en effet le travail était bien avancé. Il y a un médecin qui était là aussi, un médecin des urgences, qui m'a demandé de me mettre sur le dos. Donc je me suis allongée sur mon canapé sur le dos. Et là, ma poche des os a explosé. Et il avait besoin de vérifier en fait où est-ce que j'en étais de mon travail en regardant entre mes jambes. Pour être bien sûr que le bébé arrivait, tu vois. Donc du coup, c'est ce qu'il a fait. Et il a confirmé qu'en effet, je n'irais pas très loin là avec le bébé qui était en train d'arriver. Et c'est là qu'il m'a demandé ben, de pousser. Il m'a demandé de pousser. Il voulait vraiment que ça aille vite, je pense. Il a voulu accélérer. Cette naissance, donc c'était une naissance à la maison, mais il y avait ce côté urgence, tu sais, de ça se passe pas comme c'est prévu dans la norme, et donc du coup, comme c'était pas des personnes qui étaient habituées à accompagner les naissances, ben il y a eu cette urgence qui s'est mise en place. D'un côté, j'avais une infirmière qui essayait de me mettre une seringue dans le bras, un cathéter pour au cas où il se passerait quelque chose. Et de l'autre, j'avais le médecin qui me disait de pousser en bloquant ma respiration. Et qui m'a dit, je sais pas trop si je coupe là, voilà, il me parlait d'épisiotomie, donc j'ai réussi à dire non pour éviter de me faire couper à ce moment-là. Et du coup, j'ai poussé d'autant plus fort et mon bébé est arrivé. Donc là, tout le monde s'est un petit peu affolé, il fallait vite vite le mettre au chaud. Donc pour lui, ça n'a pas été une arrivée très douce. Parce que rapidement, bah, ils ont coupé le cordon. Et ensuite, ils nous ont transférés à la maternité, avant même la délivrance du placenta, en
Ah bon?
fait. Ouais. Ouais, parce que c'était vraiment leur peur à eux, donc que le bébé ait froid et puis bah, le placenta, je pense qu'ils avaient peur de ne pas savoir gérer, s'il y avait une hémorragie, quelque chose. Donc voilà, donc c'était pas du tout dans la douceur comme ce que j'avais pu imaginer. En revanche, c'était une naissance qui m'a donné énormément de force parce que ben du coup j'étais capable, même entravée par ces quelques désagréments. Ben en fait j'avais très bien vécu le travail, j'étais dans ma bulle, j'avais pu accompagner mes contractions comme je sentais, bouger comme je sentais. Et ça avait été voilà très rapide, très efficace. Et après, ce que j'ai appris, c'est que en fait, j'aurais pas eu besoin de pousser, que mon bébé il serait arrivé en fait assez naturellement. En tout cas, mon corps m'aurait indiqué à quel moment c'était le bon moment pour l'accompagner vers la sortie. Et cette voilà cette position que j'aurais pu garder aussi où j'étais à quatre pattes, où j'étais bien en fait.
Est-ce que
Et
tu
puis
as eu une déchirure?
j'ai eu une petite déchirure de 2 points
Ok,
qui m'a
ok.
été cousue après.
D'accord.
Ouais, ça aurait pu être bien, bien pire, clairement. Mais ouais, j'ai quand même eu cette déchirure que, à mon sens, j'aurais pu largement éviter, en fait.
J'ai une question pour toi. Donc, ensuite, tu arrives à la maternité, on te met dans une salle d'accouchement, et qu'est-ce qu'ils font donc pour ce placenta? Parce que est-ce qu'il est sorti vraiment plus tard à l'hôpital ou parce que comment ça s'est passé?
Bah oui, en fait, ils m'ont mis en arrivant à la maternité, ils m'ont mis dans une salle. Et puis, en fait, la sage-femme qui m'a prise en charge a regardé et mon placenta était décollé. Donc, il suffisait juste de le tirer un petit peu pour le faire sortir. Voilà, il était juste là et elle a juste eu à l'évacuer. Voilà, j'ai peut-être dû pousser un petit peu, mais je m'en souviens à peine. Donc il allait très bien, ce placenta, et tout s'était fait bien normalement, il n'y avait pas de souci en fait.
Alors, de quoi vous avez bénéficié du coup d'être à la maternité, vous, parce que
J'adore
vous
ta
avez, voilà,
question.
le bébé est arrivé, voilà, quel soin, quel positif vous avez eu, et aussi négatif, si t'as envie d'en parler, hein.
Ouais, malheureusement, c'est plutôt cette partie-là que j'ai eue parce que ça a complètement contrarié mon démarrage d'allaitement. Parce que j'ai été très fatiguée, parce que je manquais de notions sur justement, le démarrage de l'allaitement, comment on accompagne son bébé, comment on se pose pas trop de questions et qu'on le met au sein. Je pense que lui, il avait aussi, été déstabilisé par cette naissance, à la maison d'abord et puis être transporté tout de suite dans les minutes qu'on suivit. Même s'ils ont fait en sorte qu'on soit au maximum en peau à peau, je pense que pour lui, c'était quand même assez perturbant. Et donc, il y a eu beaucoup de pleurs dans les jours qui ont suivi. Voilà, j'avais probablement du mal à le mettre au sein. À tel point que voilà, j'étais vraiment fatiguée, notamment la deuxième nuit, et que comme j'étais trop fatiguée, on a proposé de donner des compléments à mon bébé qui prenait pas assez de poids. Voilà, donc du coup, ça aurait pu complètement faire capoter mon allaitement.
Tu as passé
Mais
combien
comme
de
j'étais à la maternité, ouais, je suis restée 5 jours.
Ah ouais, waouh, ok.
Parce que mon bébé reprenait pas de poids. Parce que clairement, je l'ai pas gardé assez sur moi, je l'ai pas mis assez au sein. Sûrement mal conseillé. La nuit avec des personnes qui étaient pas du tout formées à l'allaitement et qui ont préféré emmailloter mon bébé et le mettre dans son berceau plutôt que de me recommander de le laisser au sein ou de le coucher avec moi de façon sécuritaire. Donc ouais, ça était vraiment pour le coup la partie difficile de cette naissance. Et une fois arrivée à la maternité, ben cette prise en charge en fait qui nous coupe de juste ce qui doit se passer après quoi, de cette osmose avec le bébé, d'être dérangée, d'être manipulée, d'être conseillée mais de plein de personnes différentes avec plein de versions différentes de ce qu'on devrait faire. Donc c'est très perturbant. Et donc en fait j'ai bénéficié de pas grand-chose, hein. Je pense que j'aurais été bien mieux à rester comme tu dis chez moi, mais c'était le protocole en fait d'une naissance à la maison où on appelle les services d'urgence, c'est que ben ils nous amènent à la maternité. C'est comme ça que ça se passe. Donc avec le recul, j'aurais probablement pas appelé le service d'urgence. Mais voilà, c'était notre expérience. C'est ça qui m'a permis aussi de comprendre que c'est la peur des autres, en fait, qui vient perturber ce qui doit se passer entre une maman et son bébé, que ce soit pendant la naissance ou après. Mais vraiment, c'est pas cette partie-là que je garde, et c'est vraiment cette sensation que j'ai eue quand mon bébé est né. Quand après, je me suis dit, waouh, c'était intense, je l'ai fait. Les contractions, c'était hyper bien passé. J'avais vraiment navigué ça, tranquillement. Le fameux accoucher sereinement, ça vient aussi de là, tu vois. C'est cette façon d'être en sérénité avec le processus.
Oui, de se laisser complètement traverser, en fait.
C'est ça, de l'accueillir. Parce que c'est vrai que la sérénité, ça peut sembler quelque chose de paisible, alors que c'est assez antinomique avec la puissance de la naissance. Mais c'est, ouais, cette sérénité intérieure en profondeur, en fait. Au-dessus, il y a les vagues, et puis en profondeur, ben, on est profondément connecté à ce qui se passe, et on l'accueille, en fait, et c'est OK.
Ça me parle à 100%. C'est vraiment très chouette. Et donc, te voilà avec ce bébé qui fatalement, il reprend du poids, n'est-ce pas?
Oui. Il a repris du
L'allaitement
poids, là.
passe.
C'est ça. L'allaitement s'est très bien installé. J'ai pas lâché l'affaire, hein. Voilà, j'ai vraiment continué. Et puis, ben, ça donne aussi des forces de savoir ben, qu'on a donné la naissance à son bébé comme ça, qu'on l'allaite et qu'il reprend du poids et que c'est que nous, que notre corps qui lui offrons cette nourriture. C'était mon premier, donc j'ai pu passer 24 heures sur 24 avec lui contre moi, voilà, sans me poser trop de questions et vraiment en profiter au maximum. J'ai pu reprendre le travail que après 5 mois. Donc je sais que pour un premier bébé, c'est une chance par rapport à beaucoup d'autres femmes en France. Donc j'ai voilà, je suis restée 5 mois avec lui avant de reprendre un travail. Et j'ai continué mon allaitement bien longtemps après, jusqu'à 2 ans et demi. Donc ça a été vraiment beau. En revanche, ce qui a été plus perturbant, c'est que avec mon conjoint, on n'a pas forcément réussi à trouver notre binôme de parents. Que moi, une nouvelle fois, j'étais vraiment dans ma puissance avec cette expérience. Que du coup, je me suis beaucoup plus affirmée. J'étais quelqu'un de plutôt, justement, qui faisait pas trop de vagues, qui arrondissait un peu les angles. Voilà. Mais une fois ce moment passé, une fois le fait d'être mère. Une fois que je suis devenue mère, ben j'ai vraiment pris conscience que c'était important pour moi de transmettre mes valeurs, de pouvoir ben les assumer, les dire. Oh. Donc, je me suis vraiment affirmée à cette naissance, et notamment auprès de mon conjoint, qui n'a pas forcément suggéré le fait que je m'affirme parce qu'il n'avait pas du tout l'habitude de ça. Et on a fini par ne plus s'entendre au point de devoir se séparer, en fait. Et il m'a fait un beau compliment, étrangement, quelques mois après, il m'a dit, tu es devenue plus toi. Voilà, je me suis vraiment révélée à moi-même et je me suis autorisée à être moi-même suite à cette expérience de maternité. Et c'était vraiment, voilà, un beau compliment et la réalité, en fait. Ça a été vraiment un révélateur pour moi. Donc ça a été un tournant. C'était pas évident parce que c'est pas forcément ce que je voulais, c'est évidemment pas ce que je voulais pour mon bébé. J'aurais aimé qu'il ait ses deux parents et qu'il puisse grandir avec les deux dans cet équilibre-là qui est important, mais ben, il y avait mon équilibre à moi qui était aussi prioritaire pour que je sois la maman que j'avais envie d'être. Et donc, quand il a eu 18 mois, on s'est séparés. Donc aujourd'hui, ben, voilà, il va un peu chez son papa le week-end, les vacances, et puis majoritairement, il est avec nous. J'ai la chance de l'avoir beaucoup avec nous, mais ça reste bah, des émotions à gérer de chaque côté, tout ça. Donc voilà, c'est mon grand garçon qui est assez sensible, qui est curieux de tout. Voilà, un super petit garçon. Et puis, quelques années après, quand il a eu 4-5 ans, j'ai rencontré ben, le papa de mes deux autres enfants. Ça a été un peu le coup de foudre, quand même. C'était une jolie histoire qui démarrait, et assez rapidement, on a eu envie d'un bébé. On avait 30 ans tous les deux. Et du coup, on a eu envie d'un nouveau bébé. Et pour le coup, ma deuxième est arrivée très vite. Très, très vite, à peine on avait décidé qu'on se lançait dans l'aventure, qu'elle s'était installée.
Est-ce que j'ai une question pour toi? Est-ce que tu lui avais transmis un petit peu ton expérience de ce que tu avais vécu la première fois, de l'histoire de ton premier accouchement, tout ça? Il était au courant, ton souhait physiologique, il y avait de grandes chances d'être de nouveau là aussi pour la suite, oui?
Ah oui, il était au courant, il était tout à fait au courant. Je pense que du coup, j'étais toujours dans cette démarche de, voilà, c'est moi, je suis authentique, c'est moi, et voilà comment je suis, et voilà quelle mère je suis, et voilà comment j'aime vivre les choses. Donc, c'était aussi beaucoup plus simple d'installer une relation bah, consciente, une relation avec de la communication, une relation où chacun sait où il met les pieds, parce que ben, je savais dire les choses que je ne savais pas forcément faire à 20 ans, voilà, quand je me suis mise avec mon premier conjoint. Là, ben, au moins, j'étais franche sur qui j'étais et sur la façon dont je voyais les choses. Donc, il l'a su. Il a été un peu surpris de tout ça, hein. C'était quelqu'un qui venait d'une famille très traditionnelle. Et puis quand je lui ai parlé que j'avais allaité mon bébé 2 ans et demi, au début c'était un peu surprenant pour lui voilà, d'un allaitement aussi long. Et puis ben pareil par rapport à la naissance quoi, c'était pas du tout dans sa norme par rapport à son cercle d'amis, à des personnes qui pouvaient côtoyer en fait, d'aborder la naissance comme ça. Mais pour autant il était assez ouvert et je pense que c'est aussi ce qu'il a aimé chez moi. Ce côté ben voilà affirmé et avec des choix que j'assumais complètement donc il me suivait là-dedans et donc ben justement quand le sujet de la préparation à la naissance est arrivé il savait que j'aurais aimé une naissance à la maison mais je pouvais aussi comprendre que lui était pas prêt à ça pour un premier bébé. Malheureusement, en plus, la sage-femme était assez loin. Elle avait 1 heure de route. Voilà. Et j'ai pas insisté, en fait, pour vivre cette naissance à la maison. C'était OK pour moi, en fait, d'aller à la maternité parce que maintenant, j'étais à peu près convaincue que je savais, comment accompagner le travail et me mettre dans ma bulle et que bah au moins une fois que j'étais à la maternité il y aurait plus ce moment de séparation de transfert de choses qui ont été un petit peu bousculantes pour mon premier accouchement mais que bah une fois que j'étais là-bas et que j'ai accouché là-bas j'étais tranquille. Par contre je voulais sortir très rapidement de la maternité ça je voulais pas le reproduire je voulais vraiment rester que une journée et rentrer chez moi en fait. Et c'est ce que j'ai mis en place dans mon projet de naissance. Donc, on s'est beaucoup préparé à deux. On a refait l'autonomie avec la même sage-femme. On a écouté des préparations à la naissance. Voilà, je lui ai partagé beaucoup de ressources que je pouvais moi consulter parce que je me suis énormément documentée. Et puis, entre 2014 et 2019, il y a eu tellement de progrès, de publications, d'informations autour de la naissance naturelle qu'il y avait pléthore de ressources. Donc j'ai vraiment vraiment passé beaucoup de temps à lire, à écouter des podcasts, à m'informer sur tout ce qui était possible, à comprendre ce que j'avais pas compris la première fois, notamment cette fameuse poussée que j'aurais pu attendre spontanément par exemple. Et je me sentais voilà vraiment prête pour cet accouchement. En revanche, ce qui m'a surprise, c'est que bah, le matin où ma fille a décidé de naître, déjà c'était assez tôt, c'était pareil 3 semaines avant la date encore. Et du coup, ça s'est fait par la rupture de la poche des os. C'était pas du tout le scénario que j'avais vécu pour mon premier, et j'avais pas de contraction. Donc, c'est cette poche qui s'est rompue le matin assez tôt et j'avais pas de contraction. Et du coup, je me suis dit, ah là là, comment je vais faire si mon travail ne démarre pas? J'ai eu cette peur-là, en fait, de ce travail qui ne démarre pas. Et puis, je suis retournée m'allonger un peu, me coucher. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais attendre. J'ai que ça à faire là, je vais attendre. Je vais pas aller à la maternité, je savais que ce n'était pas nécessaire. Mais ben voilà, je me demandais un peu ce qui allait se passer. Et puis, un quart d'heure après, j'ai cette première vague qui est montée. Et j'ai vraiment ressenti toute l'excitation, en fait, du travail qui se mettait en route. Et de cette ocytocine, en fait, qui est venue vraiment se diffuser partout dans mon corps tout de suite. Et voilà, j'étais en joie d'accueillir ces contractions et de voir que le travail se lançait. Voilà. Comme il fallait pour qu'il n'y ait pas de questions à se poser de combien de temps on attend, etc. Donc en fait, j'ai pas eu à attendre longtemps ma réponse et mon corps s'est mis en route pour la faire naître. Du coup, c'était tôt le matin, j'ai attendu que mon aîné se réveille pour pouvoir l'emmener à la garderie. C'était un mercredi, du coup. Donc, on l'a emmené à la garderie. Et c'est fou comme le corps arrive à gérer les contractions et le travail en fonction de l'environnement. C'est passé la même chose récemment pour Caleb, mais en fait, mon travail était assez ralenti au démarrage. Et je sentais que tant que mon fils n'était pas dans un endroit où il était accompagné avec du monde, gardé, ben mon travail était très plat. Il se passait pas grand-chose, les contractions étaient très peu intenses, même si elles étaient là. Et puis dès qu'il a été ben, au bon endroit, qu'on l'a déposé et qu'on pouvait se diriger tranquillement vers la maternité, ben là ça s'est tout de suite intensifié. Voilà, comme si mon bébé ou mon corps savait que la voie était libre et qu'il pouvait se lancer pleinement dans le travail. On n'a quand même pas trop tardé à la maternité parce que ben, j'avais une expérience, c'était assez rapide sur mon aîné, donc on savait que potentiellement ça pouvait aller assez vite. Contrairement à ce qu'on peut penser, mon accouchement pour ma deuxième a été plus long que pour mon premier. C'est partie des idées reçues qu'on entend un peu trop souvent. Mais du coup, là, ça a été un peu plus long. On est allé à la maternité vers 8h30, elle est née à 11h30. Donc voilà, on a été accueillis. J'étais assez souriante, on m'a demandé si je venais pour un déclenchement. Et du coup, j'ai dit non, non, ça y est, c'est en route. Voilà, je crois que les infirmières étaient un peu sceptiques. Je pensais que le travail allait durer un bon moment vu mon sourire et mon excitation, mais je savais que c'était vraiment lancé, que mon moteur était en route et voilà, j'allais m'ouvrir tranquillement. La sage-femme, du coup, ben, j'ai pas eu l'obligation, entre guillemets, de faire un toucher vaginal. Elle m'a juste proposé un monitoring que j'ai accepté parce que je me sentais de rester un petit peu sur le dos. Mais je savais que si ça allait pas, voilà, je pouvais bouger, me remettre dans une autre position. Elle a attentivement lu notre projet de naissance et puis on s'est installé dans la salle nature où il y avait un grand canapé, où il y avait une baignoire mais que j'ai pas utilisée. La naissance dans l'eau, c'est pas quelque chose qui m'appelle particulièrement. Donc j'ai donné naissance à aucun dans l'eau. Mais je peux comprendre que ça soulage beaucoup, mais voilà, pour moi, ça n'a pas été un outil en tout cas. Et donc, je me suis en revanche beaucoup suspendue.
Est-ce que tu veux nommer l'endroit dans lequel tu étais, la ville, le nom de cet hôpital, si tu as envie?
Oui, alors moi, je suis normande et du coup, j'ai accouché de Yale à Rouen.
Ah, d'accord, ok.
Ouais, plus précisément à Mont-Saint-Aignan, dans une maternité qui s'appelle le Belvédère, la maternité du Belvédère.
Ok,
Et
merci.
qui est la plus réputée, on va dire, pour accompagner les naissances physiologiques sur la ville de Rouen et les alentours.
D'accord. Donc, je te laisse reprendre. Tu étais donc suspendue.
J'ai suspendu.
Les fameuses suspensions qui te faisaient du
Ouais,
bien.
tout à fait. Ouais, tout à fait. Je me suis beaucoup suspendue encore. Et puis, la différence avec mon premier travail, c'est que là, ben, la poche était percée. Et j'ai vraiment senti que l'intensité était aussi différente. Que les contractions sur une poche pleine d'eau et les contractions directement l'utérus sans liquide, c'est vraiment plus fort. Et du coup, j'ai commencé aussi à vocaliser ce que j'avais un peu fait assez naturellement au premier accouchement aussi, mais là voilà, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé à traverser ces contractions. Et je me rappelle, malgré mon choix et ma décision et le fait que j'étais vraiment, voilà, je savais que j'irais au bout de ma naissance sans péridurale, j'ai eu cette pensée quand même pour plein de femmes en me disant je comprends pourquoi ben, de nombreuses femmes, à un moment donné, choisissent d'aller vers un soulagement de cette douleur parce qu'elle est vraiment intense, en fait. Donc, sans me dire que moi, j'avais envie de faire ce choix-là parce que c'était hors de mon champ, J'ai vraiment eu cette pensée et je m'en souviens de je comprends parce que c'est tellement intense et qu'on peut avoir cette peur de mourir qui s'installe, cette peur de pas aller jusqu'au bout, de pas survivre en fait à cette douleur. Et c'est vraiment cette peur qu'il faut qu'on se retire parce que ben justement cette douleur, c'est pas une douleur qui tue, c'est une douleur qui donne la vie. Et elle ne nous fait pas mal en fait. Il n'y a pas de blessure dans le corps avec la douleur des contractions. C'est juste une ouverture. Voilà, du coup, je me suis rappelé ça aussi pendant ces contractions. Et un moment, j'ai voulu m'installer pour accompagner la poussée que je sentais qui arrivait. Et puis, en fait, je me suis allongée et ça a plutôt stoppé le travail, en fait. Il ne se passait plus rien. Je subissais un peu les contractions. Mais je crois que c'était une pause dont j'avais besoin, en fait. D'être allongée, d'être dans ce moment où ben, on prend un peu son élan avant la naissance. Et du coup, j'ai eu besoin, voilà, de me rassurer à ce moment-là. Et c'est le seul moment où j'ai demandé à la sage-femme, ben, est-ce que je peux savoir si elle est là, si elle arrive? Donc, je ne lui ai pas demandé un chiffre pour savoir à combien j'étais ouverte ou quoi, mais juste de savoir, voilà, si tout était OK et tout. Et elle m'a dit, ben oui, elle est juste là et voilà, après, ça dépend en fait que de vous, un peu de la laisser venir. Et donc, j'ai un peu pris mon courage à deux mains et je me suis redressée parce que ben, il y avait besoin de cette verticalité à ce moment-là pour que mon bébé naisse. Et tout de suite, dès que je me suis relevée, ben, les contractions se sont réintensifiées tout de suite et il y a eu cette poussée qui est arrivée en même temps. Et en deux contractions, en fait, la tête de ma fille est sortie et la petite anecdote, c'est qu'elle s'est mise à pleurer alors que le reste de son corps était encore dans le mien et c'était une sensation qui était très particulière. Et à la contraction suivante, du coup, elle a glissé, c'est la sage-femme qui l'a attrapée parce que moi, j'étais plus en capacité d'aller la chercher à ce moment-là et je savais que la sage-femme était là. Donc, je pense qu'inconsciemment, voilà, j'ai juste traversé cette émergence de mon bébé. Et puis juste après, elle l'a glissée entre mes jambes et j'ai pu l'attraper, la mettre contre moi. Et j'étais encore éblouie de ce moment que je venais de vivre et de ce que mon corps avait réussi à faire. C'était un très beau moment et du coup, le papa était juste là avec nous. Voilà, on était tous les trois installés. On a pu profiter de cette découverte. Tous les trois, la sage-femme nous a laissés. Elle a vraiment été très discrète tout au long de la naissance. Voilà, juste les mots qu'il fallait au bon moment, les gestes, pareil. C'était un beau cadeau encore que la vie me faisait d'être accompagnée par cette femme à ce moment-là.
Donc après la naissance, vous êtes certainement allé donc dans un lit, dans un lit, hein. Et la sage-femme est sortie de la pièce avant que le placenta soit sorti?
Oui, tout à fait. Alors, c'était même pas dans un lit. En fait, je suis restée là où j'avais donné naissance, sur ce fameux grand canapé tout rond. Voilà, c'est une espèce de grande banquette qui permet ben, de prendre différentes positions, de bouger, et c'était très pratique pour la fin du travail. Et du coup, c'est là que Yael est sortie et elle nous a laissé sur ce canapé, en fait, voilà, nous découvrir. Et en effet, avant que le placenta sorte et le temps que ben, justement le cordon finisse de battre cette fois, pour que ma fille puisse recevoir ben, tout ce qu'elle avait encore au niveau du placenta. Donc oui, elle nous a laissé complètement nous découvrir. Elle a observé Yael et elle a vu qu'elle allait très bien. Donc du coup, elle a pu nous laisser juste tous les trois se découvrir et voir ses grands yeux s'ouvrir sur le monde. Donc c'était très beau. Elle s'est très vite calmée. Ouais. Autant elle a pleuré la tête sortie, autant après on l'a plus entendue. Elle était vraiment apaisée. Et ensuite, la sage-femme est revenue et là, elle m'a un peu aidée par rapport au placenta. Le temps commençait à tourner et là, j'ai senti que sa limite pouvait être un peu atteinte, qu'au bout d'une demi-heure, si le placenta ne sort pas, en fait, Elles doivent faire appel au gynécologue, à l'obstétricien pour venir faire la délivrance. Et là, je pense que j'étais bien ailleurs et pas du tout concentrée sur le fait que mon placenta puisse arriver. Mais je pense qu'il n'y avait pas de difficulté particulière. En fait, peut-être qu'il aurait juste fallu que je me redresse un petit peu et voilà, il serait arrivé. Là, elle m'a demandé si elle pouvait appuyer un peu sur mon utérus, qu'elle a fait et que j'ai accepté. Et avec le recul, c'est pareil, c'est parti de l'enseignement de cette naissance-là, c'est que probablement qu'en me redressant un petit peu, il n'y aurait pas eu besoin de venir appuyer sur l'utérus pour faire arriver le placenta. Mais on apprend toujours, même
Donc
les sages-femmes.
elle a légèrement appuyé puis tracté avec le cordon, c'est ça, pour le faire venir, et c'est venu assez facilement à ce moment-là.
Oui, il n'y avait pas de souci, il était complet, il n'y a pas eu de problème. Du coup, juste avant, on avait coupé le cordon.
Oui.
Voilà, et puis ensuite, elle s'est occupée de ça. Et de nouveau, j'ai eu une petite déchirure de 2 points encore. Voilà, qu'elle m'a recousue, qui fait partie des moments les moins agréables dans une naissance naturelle, quand on n'a pas de péri et qu'il y a un petit point à faire. C'est clairement le moment où on n'a pas du tout envie d'être embêté. Voilà. Parfois, c'est pas nécessaire. Après, c'est chacun qui voit comment il a envie de vivre ça. De faire un petit point ou juste de laisser les choses cicatriser comme elles peuvent. C'est aussi possible.
C'est difficile de faire un choix en conscience là-dessus, je trouve, hein, je parle pour moi, parce que déjà, on est dans un moment de grande vulnérabilité, donc faire un choix quand tu es complètement ailleurs, c'est difficile. Et puis, on peut ressentir très vite que face au corps médical, finalement, on va suivre ce que eux pensent être le mieux. Et on va leur, même si on leur demande leur avis, c'est rare qu'ils disent non, on va pas toucher, clairement. Quand
Oui,
même.
tout à fait.
Et donc, te voilà avec ce nouveau bébé. Quand est-ce que... Alors, tu as accouché à quelle heure et à quelle heure vous êtes reparti, du coup?
Bah, j'ai accouché à 11h30 à peu près, le mercredi. Et on a quand même passé une nuit sur place. Donc, du coup, là, on a été transféré après dans une chambre de suite de couches, comme on les appelle. Et on a été en gros sous surveillance hein, parce que c'est vraiment ça l'objectif hein. On est surveillé pendant 24 heures, mais la maternité a été très facilitante sur le départ parce que normalement par exemple le pédiatre passe pas tout de suite. Là, la pédiatre est venue le matin même pour que tous les examens qu'on pouvait faire avant que je parte soient faits. J'avais un accompagnement prévu à domicile avec ma sage-femme. Donc, c'est elle qui est venue ensuite. Mais du coup, voilà, Yael a vu la pédiatre et ils nous ont laissé sortir sans pression, sans menace quelconque. Donc, voilà, au bout de 24 heures, je sais que toutes les maternités sont pas du tout à l'aise avec ce genre de sortie précoce. Donc là, vraiment, on a été très bien accompagnés sur la sortie. Et ensuite, ma sage-femme est venue tous les 1 ou 2 jours pendant une petite semaine. Faire la pesée pour Yaël et puis vérifier pour moi aussi que tout allait bien à la maison. Et du coup, ça a été vraiment chouette ces premiers jours à la maison parce que j'ai pu retrouver mon aîné très rapidement. Parce que ben, ma sœur qui est là aujourd'hui aussi était avec nous. Donc c'était très doux, beaucoup plus que ce que j'avais vécu la première fois à la maternité. L'allaitement, c'est aussi bien mieux installé, pas sans perdre de poids de mon bébé. Voilà, c'est mis tranquillement en route et dans le calme, sans pression.
Ta sœur, elle a des enfants aussi ou pas?
Non,
Ok.
c'est ma petite sœur et pour l'instant, elle n'a pas d'enfant, mais du coup, elle sera très très prête
Et
quand
oui,
on
c'est
ira d'en
incroyable.
avoir.
C'est clair. C'est génial. Alors, voilà, ton postpartum, comment est-ce que tu le vis du coup, ce postpartum-là?
Le deuxième, eh ben, le deuxième postpartum, c'est le postpartum du confinement. Parce qu'on est en février 2020 quand j'accouche et on est en mars 2020 quand tout le monde s'enferme chez lui. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que pour nous, ça a été une jolie période. Parce que mon conjoint a pu rester avec nous, en fait, pendant bien plus longtemps que ce qui était prévu. À l'époque, c'était encore 2 semaines le congé paternité. Et donc, ben là, il a pu rester plusieurs mois avec nous en faisant un peu de télétravail, voilà. Donc ça a vraiment été pour nous très aidant, et puis ça a permis une belle connexion entre lui et sa fille qui était son premier bébé, hein. Donc voilà, il a eu vraiment une belle expérience, il a pu paterner tranquillement. Voilà, on s'est mis au portage, il a été très soutenant dans mon allaitement. Et voilà, ça a été vraiment plus facile ben, voilà, d'être deux pour vivre ces moments-là. Et surtout, voilà, un beau cadeau parce que, encore une fois, peu de familles ont la chance d'avoir papa et maman pendant plusieurs mois à la naissance. Donc oui, c'était vraiment, vraiment chouette. Et du coup, moi, j'ai hyper bien récupéré physiquement. J'ai eu aucune problématique parce que j'avais ce relais qui était là permanent, quoi.
Est-ce que tu veux nous raconter maintenant les prémices de l'arrivée de ce petit bébé là que je vois dans le coin de mon écran? Est-ce qu'il y a eu donc ce désir d'un deuxième enfant de votre union? C'est ça? Oui.
C'est ça, exactement. Et du coup, ce désir, bon, il est arrivé il y a 2 ans maintenant. En fait, on savait qu'on voulait un autre bébé. Et il y a 2 ans, début 2022, on s'est dit que voilà, c'était peut-être le bon moment. Et elle avait 2 ans. Et du coup, on a eu envie d'agrandir la famille. Ce qui s'est passé là, c'est que ça a mis 2, 3 mois peut-être et je suis tombée enceinte. Et j'en ai pas parlé tout de suite, j'avais envie de garder ce début de grossesse pour moi, et même à mon conjoint, en fait, j'en ai pas parlé tout de suite. Et j'ai attendu un petit peu, et au moment où j'ai eu envie de lui confier, et ben cette petite vie, elle s'est envolée. Donc ça faisait un peu plus de 6 semaines que j'étais enceinte. Et puis bah un matin, j'ai senti que j'avais des contractions qui se mettaient en place, des douleurs de règles mais très intenses. Et voilà, je savais ce que ça signifiait, j'ai commencé à saigner et j'ai compris que ben voilà, cette grossesse elle irait pas plus loin. Et
Donc
du coup,
tu
j'étais
l'as appris, excuse-moi je te coupe, mais donc tu l'as appris par toi-même, c'est ça que j'entends. C'est pas lors d'une écho où on t'a dit ah bah non, cette grossesse va s'arrêter dans X jours ou je ne sais quoi, intervenons, n'intervenons pas, etc. Tu l'as vraiment vécu dans le temps présent, en fait, c'est ça.
C'est ça. J'avais même pas fait de test de grossesse. Je voulais pas faire de test de grossesse pour cette nouvelle grossesse. Donc j'en ai pas fait non plus pour la suivante qui m'a amené Caleb. Je voulais pas faire de test de grossesse urinaire. Voilà. Je me disais qu'en fait, j'avais pas besoin de ça pour savoir si j'étais enceinte ou pas, et que ça m'apporterait pas une information capitale. Et puis si on va plus loin, en termes d'écologie, c'est quand même un ravage, ces tests-là. Donc du coup, voilà, je m'étais dit que vu que je suivais beaucoup mes cycles, j'avais énormément appris sur mes cycles sur les 2 dernières années. Donc je connaissais mes cycles, j'arrivais à les suivre, je voyais mes symptômes d'ovulation, de règles qui approchaient, etc. Donc en fait, j'allais savoir si je tombais enceinte. Et c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai vu que dans mon calendrier, dans mes symptômes, il se passait quelque chose de différent que les cycles habituels. Et donc, voilà, je savais que j'étais enceinte. Mais j'avais fait aucun test, j'avais pas fait de prise de sang encore non plus. Pareil, j'attendais que la grossesse soit suffisamment avancée, que ce soit nécessaire, on va dire. Je sais pas si ça allait vraiment un jour, mais en tout cas, voilà, s'assurer qu'il y avait la grossesse pour, si en fait c'est pour les déclarations auprès des organismes, etc. Voilà. C'était plutôt ça, la nécessité entre guillemets. Et donc ce jour-là, un peu, je suis toute seule avec ma fille, et je sens ces contractions qui sont là. Mon conjoint est parti, il rentre le soir, et donc le matin, je suis vraiment pas bien et j'ai qu'une hâte, c'est que ma fille parte à la sieste. Voilà, donc je vais la coucher, elle s'endort, et moi je vais me mettre dans un bain. Pour le coup, je te disais que j'étais pas trop appelée par l'eau pour mes naissances, Et bien, cette fois-ci, pour cette naissance-là un peu particulière, ben, j'ai eu vraiment besoin de me mettre dans ce bain. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis mise dans l'eau. Je pense que je me sentais aussi très, très triste. Donc, il y avait aussi tout ce deuil qui était en train de se faire. Et puis, ces contractions qui étaient douloureuses. Donc, voilà, le fait de me mettre dans le bain, ça a vraiment apaisé tout ça. Et donc, à un moment, j'ai décidé que voilà, je me sentais mieux et qu'il était temps de sortir du bain. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis accroupie. Une fois que mon bain a été vidé, je me suis accroupie dedans. Et ben là, d'un coup, j'ai eu cette petite poche qui est sortie. La poche avec ce petit embryon qui se développait, en fait. C'était vraiment comme une naissance. Je l'ai vraiment vécu comme les autres naissances. Voilà, ces contractions, mais qui sont très différentes, et puis ben, cette expulsion en fait de l'embryon. Et donc j'ai récupéré cette petite poche, et là voilà, j'ai compris vraiment que c'était ça et que c'était terminé pour cette grossesse-là. Et voilà, j'ai juste pu dire mon bébé et puis me mettre à pleurer en fait, petit embryon. Donc je l'ai mis dans une petite boîte, et puis j'ai attendu que mon conjoint rentre. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pu lui expliquer ce qui s'était passé, que bah, je ne l'avais pas tenu au courant. Donc pour lui, il tombait un peu dénu, en fait. Il découvrait cette grossesse en même temps que cette fin. Mais c'était important pour moi de lui partager ben, tout ce cheminement et tout ce qui s'était passé. Et le lendemain, ça a été aussi important pour moi de lui montrer ce petit fœtus, ce petit embryon que j'avais gardé. Parce que j'avais vraiment besoin que ça soit concret pour lui, que ce soit pas juste des mots. Et que ben ils voient aussi ce que moi j'avais vu et qu'ils comprennent ce que j'avais traversé. Donc voilà, je lui ai montré, et puis on est allé faire un petit rituel, une petite cérémonie, et mettre ce petit embryon dans la terre. Voilà, en se disant que ben, c'était pas lui qui s'était envolé, mais qu'on était toujours prêt à accueillir un autre bébé. Donc ça, c'était en juillet 2022, et j'ai quand même mis du temps à faire le deuil de cette grossesse. Je pensais pas que ce serait aussi long, mais tout l'automne, ça a été assez difficile psychologiquement. J'étais triste, j'étais très triste tout le temps. Et l'hiver, ça s'est un peu apaisé. Et étrangement, 9 mois après le début de cette grossesse qui s'est arrêtée, et ben je suis de nouveau tombée enceinte. Donc au printemps, je suis retombée enceinte au moment où vraiment j'aurais dû donner naissance à ce bébé. Donc c'était le cycle en fait qui était long, c'était important. Et donc là, cette fois-ci, je lui en ai parlé assez vite. Dès que j'ai eu mon retard de règles, j'ai parlé à mon conjoint de cette grossesse qui s'était réinstallée, cette nouvelle grossesse qui commençait. J'ai de nouveau pas fait de test de grossesse, mais j'ai continué à suivre, à regarder les jours qui passaient, à voir que ben ce petit bébé s'accrochait. Et puis vers 7 8 semaines, je suis allée faire une prise de sang qui a confirmé que bébé était bien installé. Et puis j'ai commencé à prendre quelques rendez-vous pour faire des échographies, et aussi pour contacter cette fameuse sage-femme accouchement à domicile qui propose d'accompagner les naissances, parce qu'on avait déménagé entre-temps. Et donc j'avais accès à cette femme qui était qu'à 30 minutes de chez nous. Et donc pour le coup, papa était bien plus prêt à me suivre dans ce projet de naissance. Mais voilà, en tout cas, avant de vivre cette fausse couche, cette grossesse arrêtée, comme je préfère peut-être les appeler, bah je pensais être un peu immunisée, que ça arrivait qu'aux autres. Mais non, en fait, moi aussi j'ai traversé ça, et ça m'a encore une fois appris énormément de choses sur la maternité, sur la grossesse. Donc voilà, ça m'aide à comprendre aussi ce que d'autres femmes peuvent traverser.
Comment se passe cette troisième grossesse? Enfin, cette quatrième grossesse, on en parlait.
Ouais, c'est ça. Du coup, ça se passe vraiment bien. On rencontre cette sage-femme qui est complètement OK pour nous accompagner. Je mets en place un suivi, voilà, vraiment minimal, on va dire. Et puis, pas beaucoup de préparation au final, parce que j'avais déjà tellement exploré le sujet que la vie suivant son cours avec déjà deux enfants, tout ça, je ne suis pas vraiment retournée me replonger dans trop de préparation. J'ai juste suivi les cours avec ma sage-femme, avec d'autres femmes aussi. Voilà, un petit groupe, c'était très agréable. Mais c'est un bébé qui me donne tout de suite confiance. Je reçois son, voilà, un message d'apaisement, de confiance. Bah, c'est un bébé qui répare aussi, hein, après la grossesse qui s'est arrêtée. Mais vraiment, je sens qu'il m'apaise et que, voilà, on peut faire le chemin tranquillement, sans s'inquiéter. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Est-ce que tu étais déjà doula à ce moment-là? Tu avais fait des formations autour de la périnatalité?
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé cette partie-là, mais pendant la grossesse de Yaël, donc pendant ma deuxième grossesse, bah j'en profite pour me lancer dans une formation, notamment autour du postpartum, avec maternité sacrée de doula postnatale. Parce que en fait, j'étais plus du tout épanouie dans mon travail précédent, qui était un travail très classique de communication, d'accompagnement des entreprises, qui, voilà, c'est un peu différent. Mais du coup, bah, c'était plus un travail qui me convenait. Et depuis la naissance de Liam, je savais que j'étais animée de cette passion autour de la maternité, de la parentalité, et que ben, dès que j'abordais le sujet avec quelqu'un, c'est tout de suite quelque chose voilà, où je pouvais échanger des heures à ce sujet-là et lire beaucoup. Et donc, ben, ça cheminait tranquillement, mais sans savoir comment je pouvais me reconvertir, en fait. Et puis, quand pendant la... J'étais même inscrite avant d'être enceinte, je crois, mais... Du coup, quand cette formation-là est arrivée devant mes yeux, je me suis dit, bah oui, j'ai envie de faire ça et je me suis lancée. Je me suis lancée tout de suite. Et j'ai profité, du coup, ben, des circonstances du confinement, de mon congé maternité. J'étais aussi en fin de contrat de travail pour me lancer, en septembre 2020, en fait, en tant que. Donc oui, ça faisait déjà 3 ans que j'étais doula quand je suis tombée enceinte de Caleb. Voilà, que j'accompagnais les femmes, que ensuite j'ai continué à me former au fil du temps pour accompagner plus aussi pendant la grossesse, faire des soins, que ce soit des massages. Je me suis beaucoup formée autour de l'Ayurveda, tout ce qui va être les rituels rebozo aussi, voilà, toutes ces choses qui viennent adoucir l'expérience de la maternité. Et j'accompagnais les femmes chez elles essentiellement, voilà, pendant la grossesse, après. Et du coup, oui, ça faisait vraiment partie de mon quotidien de parler de naissance. Et voilà, je me nourrissais sans avoir besoin de formaliser quelque chose. Et en vivant du coup cette grossesse un peu plus librement, un peu moins studieuse. Voilà, plus avec ce que je savais déjà et la confiance que me donnait ce bébé, en fait.
D'accord.
Et c'est assez libérateur de se poser moins de questions. Voilà, de savoir où on va et c'est cette expérience, en fait, qui permet ça. C'est vrai que maintenant, on a peu de maternité dans une vie de femme. On a de moins en moins. Les femmes qui ont un, deux enfants, trois, je commence déjà à faire partie des exceptions. Et du coup, on n'a pas le temps de capitaliser sur tout ce qu'on apprend au fil des grossesses et des maternités. Donc, le rôle des accompagnantes et le rôle du village et des femmes qui sont autour de nous, il est d'autant plus important de pouvoir se transmettre des choses, en fait, pour que ces maternités, ben, elles soit le moins stressante possible et voilà, qu'on puisse juste en faire des belles périodes de vie et en profiter. Okay. Donc c'est vraiment ce que j'ai vécu sur cette grossesse-là. J'étais dans mon quotidien, en fait, il m'a accompagnée dans mon quotidien. Voilà, j'ai travaillé assez longtemps. J'avais mes deux enfants aussi que j'accompagnais au quotidien. Et voilà, et il était là et plutôt tranquille. Et puis, est arrivé le dernier mois. Et comme sur mes deux précédentes grossesses, j'avais accouché assez tôt par rapport au terme. Bon, je m'attendais là presque à accoucher encore plus tôt. Donc c'est presque ça mon petit stress, c'est que j'avais peur de ne pas pouvoir profiter assez longtemps. J'avais peur voilà, qu'il arrive à un moment où j'étais pas complètement tournée vers lui. Mais non, il a attendu patiemment que la voie soit libre. Il est resté au chaud. J'ai pu finir les choses que j'avais envie de finir avant son arrivée. Et il était prévu pour Noël, pour le 26 décembre. Et donc, arrivé une semaine avant, ben, j'avais vraiment pu en profiter depuis une dizaine de jours. Et puis, j'avais complètement lâché prise parce qu'à un moment, j'ai commencé à me dire, ah mince, il faut pas qu'il arrive trop tard parce qu'à Noël, ma sage-femme sera plus disponible. Et j'ai eu quelques jours comme ça où je doutais un peu finalement d'accoucher trop tard, alors que j'avais longtemps peur d'accoucher trop tôt. Comme quoi, on se met vraiment une pression et on a du mal à faire confiance au processus, justement, dans cette phase-là de, voilà, j'attends que mon bébé arrive. Parfois, c'est plus tôt, parfois, c'est plus tard et c'est OK. Mais là, j'avais vraiment réussi à lâcher prise et à me dire, ben, tant pis, si elle n'est pas dispo, elle n'est pas dispo, c'est que c'était un autre chemin de naissance et puis c'était OK. Et puis bah du coup, il s'est décidé. C'est décidé, je suis allée faire une grande marche un matin et je suis rentrée, j'ai écrit pour me rappeler de comment je me sentais ce jour-là. Les enfants étaient à l'école, on allait faire des petites courses, ma sœur était de nouveau là parce que ma sœur j'avais envie qu'elle soit présente pour la naissance, notamment parce qu'elle fait des très belles photos, c'est son métier, et du coup elle a été là pour photographier et filmer la naissance. Donc elle était là et on a passé la journée toutes les deux, on est allé faire des courses et puis on est allé chercher les enfants à l'école. Et en fin de journée, j'ai vraiment senti là que hop, quelque chose se passait et que les contractions se mettaient en route. Mais de la même façon que pour Yael, mon travail était assez latent. Le temps que on dîne tous ensemble et le temps que j'aille embrasser mes enfants quand ils sont allés se coucher. Et par contre, quand je suis sortie de la chambre à 21h, là, j'ai été presque terrassée par les contractions qui se sont vraiment intensifiée d'un coup parce que, de nouveau, la voie était libre, tout était prêt pour la naissance, j'avais préparé une pièce dans ma maison qui attendait ce moment-là. Et du coup, j'ai pu prévenir ma sage-femme que ça y est, le travail se mettait en route, mais qu'elle pouvait attendre encore un petit peu. Et puis finalement, une demi-heure après, mon conjoint a vu que je commençais à partir un peu dans un autre monde, que mes contractions s'intensifiaient, que j'étais plus en capacité d'échanger. Et du coup, il s'est dit, bon, là, ce serait quand même bien que la sage-femme arrive. Donc, il l'a rappelée pour qu'elle vienne. Et vraiment, ça a été la naissance la plus rapide et la plus intense des trois. Je sais pas si c'est le fait que je savais que j'allais rester là, que j'étais arrivée en fait, j'étais au bon endroit pour donner naissance et donc mon corps a été très efficace sur son ouverture. Une fois encore, je me suis beaucoup suspendue. J'ai eu des contractions qui sont arrivées par vagues les unes après les autres. J'avais très peu de répit entre les contractions. J'ai de nouveau eu cette petite phase où on se pose les questions de pourquoi, pourquoi on est là, pourquoi on a fait ça. Mais c'est vite passé et j'ai compris que j'étais déjà en fait en fin de travail. J'avais déjà avancé tellement vite. La sage-femme est arrivée. Du coup, elle était là 30 minutes avant que Caleb naisse. Mon conjoint me massait le bas du dos pendant les contractions. Et rapidement, j'ai eu besoin, voilà, de me rapprocher du sol, de me mettre à quatre pattes et de grogner. J'ai dit après dans mon récit que c'était un peu, j'étais comme une lionne, un peu à pousser des grognements de lionne. Et l'envie de pousser est arrivée très vite aussi et m'a beaucoup soulagée. Et donc, ces poussées ont été assez intenses, mais très, très soulageantes. Et sur l'avant-dernière, ma poche a percé. Et ensuite, là, voilà, Caleb est sorti très vite, ouais, dans toute son intensité. Et ça retombe d'un coup, en fait. D'un coup, il y a plus rien. C'était très sauvage pendant 1 heure. J'ai dû vraiment bouger, traverser, laisser les contractions venir par vagues, les accueillir, alors que c'était très intense. Et puis d'un coup, hop, il n'y a plus rien. Et il y a un bébé. Se réveille. Oh.
Soleil.
Donc cette fois-là, j'étais assez près du sol, donc la sage-femme a laissé Caleb arriver sur le matelas. En fait, il y avait un matelas, c'était pas le sol directement. Parce que j'avais dit que je voulais attraper mon bébé moi-même. Donc du coup, dès qu'il a été sur le matelas, j'ai pu venir le récupérer, le mettre contre moi. Il était très calme. Il a pris le temps d'arriver, etc. Et il avait gardé les yeux fermés pendant quelques minutes. Et au moment où on a prononcé son prénom avec son papa, il a ouvert les yeux. C'est un très joli moment. Et cette fois, je souhaitais aussi que le placenta naisse avant qu'on coupe le cordon. J'avais vraiment cette envie de voir mon bébé connecté à son placenta par le cordon. Donc, je me suis verticalisée avec l'aide de ma sage-femme. Et voilà, le placenta est arrivé très facilement. Et du coup, j'étais très heureuse de voir l'entièreté, parce que c'est quelque chose qu'on voit si rarement, en fait, de, voilà, bébé qui est connecté à son placenta, et c'est ça qui l'amène à la vie, à naître, à pouvoir être nourri tout ce temps. Et je trouvais ça beau de pouvoir les voir connectés tous les deux. Et pas que ça reste du domaine du mental et de l'imagination, mais voilà, de les voir ensemble.
Le placenta est sorti rapidement cette fois-ci.
Oui, j'ai juste eu à me relever et il était là. Mais je pense comme il était là aussi la deuxième fois, mais que le stress du milieu hospitalier a flouté en fait, enfin a empêché de se dire que tout était ok et que ça allait bien se faire en fait. Il y a tout de suite des inquiétudes qui arrivent, comme pour la première fois en fait. Et là, au contraire, personne n'était inquiet de rien. Tout le monde était dans la confiance de cette naissance. Et c'est le plus important, en fait, c'est d'être entouré de gens qui ont confiance que tout va bien se passer.
Et donc vous étiez chez vous et vous avez pu voilà, vivre un postpartum immédiat déjà chez vous dans votre cocon. Les enfants dormaient.
Ça.
Ils
Des
se sont pas réveillés.
scénarios parfaits. Ils se sont pas réveillés, non. Ils se sont pas réveillés, ils venaient de s'endormir. Voilà, ils étaient à l'étage, moi j'étais en dessous. Après, j'ai pas crié, en fait. Ça n'a jamais été des cris, c'était vraiment des grognements assez graves et du coup, je pense pas que ça les ait dérangés. Et non, il dormait tranquillement et du coup, on a pu aller se coucher dans notre lit juste à côté. Et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, leur petit frère était arrivé.
Est-ce que quelqu'un leur a annoncé la naissance avant qu'ils arrivent dans la chambre?
Non, non, du coup, ma sœur était avec eux, elle les a accompagnés en leur disant qu'il y avait une surprise. C'est ça? Non. Ils ont senti que c'était un peu différent, qu'il y avait quelque chose de particulier. C'était le mercredi, donc. Ouais, le mercredi matin, donc voilà, on n'avait pas de stress d'aller à l'école ou de choses comme ça, donc ils ont pu se lever tranquillement et venir nous voir et du coup découvrir que hop, dans le lit, il y avait un bébé. Il y avait un bébé. Et ma fille qui avait quatre, enfin, voilà, qui avait quasiment 4 ans, m'a demandé de nombreuses fois, mais pourquoi il est là et comment il est arrivé? Ça l'a questionné beaucoup.
Est-ce que vous
Voilà.
avez des photos à lui montrer du coup à cette grande fille là? Elle a vu des photos
De
d'accouchement?
l'accouchement. Je suis pas sûre de lui avoir montré. Si, je lui en ai montré quelques-unes. Je lui en ai montré quelques-unes, mais ben, du coup, on a aussi des images qu'on pourra leur montrer quand ils seront plus grands, s'ils ont envie de les voir. Voilà, de cette naissance de leur petit frère.
Petit bah, merci déjà d'avoir raconté tout ces trois grands, ces quatre, trois grands chapitres, quatre aussi, voilà, si tu lui fais une place, et je sens que oui. C'est magnifique d'entendre le cheminement et de voir aussi ce papa aussi qui a dû évoluer entre l'accouchement qui était pour sa première fille, qui semblait être finalement à l'hôpital pour un sentiment de sécurité renforcé pour lui. Et finalement, il a trouvé cette sécurité-là au travers de toi, de ce que tu incarnais toi et de ce que tu vibrais toi aussi.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que, en fait, oui, il m'a suivi moi complètement et je l'en remercie pour ça. Je suis très reconnaissante de ça, de voilà, d'avoir trouvé un compagnon qui est capable de pas de lâcher prise aussi lui et d'être dans cette confiance et dans le fait qu'il peut pas tout maîtriser, mais que oui, il a senti que pour moi c'était possible et que les différentes choses qu'on a pu traverser ensemble et les conditions réunies faisaient que c'était OK pour lui. Et ouais, c'était chouette. C'était
Et
très
aujourd'hui,
chouette.
ce que toute cette expérience t'a apporté, c'est quelque chose qui émane de toi, dans qui tu es en tant que doula, rien que dans le nom que tu as choisi. D'ailleurs, ce serait intéressant de te poser cette question. Pourquoi avoir vraiment, si tu as dû à un moment faire ce choix de ce nom-là, c'était le mot serein, serein, sereinement, que tu avais toi envie d'exposer comme ça au monde. Pourquoi? Tu peux en parler un peu?
Ouais, alors du coup mon compte Instagram, je l'ai créé pareil très peu de temps avant d'être enceinte de Yael. Donc du coup ça veut dire que j'étais pas encore doula. Je commençais tout juste à cheminer, mais j'avais vraiment cette envie, comme tu dis, de dire au monde que la naissance, ça pouvait être quelque chose de serein parce que c'est vraiment ce que j'avais vécu avec Liam. Que peut-être je voulais venir en contraste avec ce qu'on pouvait dire de la naissance, de l'accouchement. Alors, tu vois, j'étais encore dans ce paradigme du mot accouchement, alors qu'aujourd'hui, j'essaie d'utiliser plus facilement enfantement, mais dans le langage courant, c'est encore peu compris. Et du coup, ça, j'ai eu beau réfléchir ces 4 dernières années, 5 maintenant depuis que ce compte existe. Eh bien, en fait, quand j'ai voulu changer, je suis quand même restée sur cette expression qui était venue à moi, comme tu dis, dès le début, en fait, d'accoucher sereinement. Et ça signifiait vraiment être dans la confiance de ce qui se passe, être en alignement avec ses choix. Voilà, d'être dans ce calme intérieur et dans cette incarnation de ce qu'on souhaite vivre. Ça voulait dire aussi accueillir des choses qui peuvent être plus difficiles, mais que c'était aussi possible de le faire dans la sérénité, quand on était informé, quand on était accompagné, quand on se laissait la place aussi pour tout ça. Et puis Accoucher sereinement, c'est pas juste le jour de la naissance, c'est aussi pendant la grossesse, comment on s'y prépare. Et puis pendant le postpartum, comment on vit ces chamboulements. Et du coup, cette sérénité, j'avais vraiment envie qu'elle s'installe tout au long du cheminement. Pas juste pour ce moment clé, mais vraiment du désir d'enfant jusque au retour sur cette expérience et sur cette parentalité qui se met en place, en fait. Je pense que la sérénité fait en effet partie de ce que j'essaie de mettre en place au quotidien aujourd'hui avec mes enfants.
Et aussi un peu la doula de tes enfants.
Ouais, en tout cas, j'essaie d'être ma propre doula aussi.
Ah, oh, très juste.
J'essaie de prendre soin de moi parce que c'est de ça dont mes enfants ont besoin, en fait. Ils ont besoin d'une maman qui sait s'écouter, qui sait accompagner ses besoins pour pouvoir accompagner les leurs. Et donc, quand je suis fatiguée, je priorise mon repos. Quand je suis dans mes émotions, je travaille pour leur faire de la place et les laisser s'en aller. Et puis leur transmettre tout ça de comment eux ils peuvent aussi s'accompagner. Il y a vraiment cette démarche de s'auto-accompagner avant de vouloir accompagner d'autres personnes.
Juste. Merci Marie. Alors pour clôturer, alors moi j'aime bien toujours demander une question très ouverte pour terminer. Et là c'est particulier parce que tu es accompagnante dans la maternité, dans la parentalité. Si tu avais une transmission, un message qui serait le plus important pour toi à transmettre là, à des futurs parents qui écoutent le podcast, qu'est-ce que ce serait ce message? Ou ces messages.
Pense qu'il y a vraiment, pour revenir sur ce que je disais, la confiance en fait à cultiver. La confiance en soi, la confiance en ses compétences, en ses capacités. Le fait de se faire confiance en fait à soi. Et puis, du coup, pour l'appuyer, cette confiance, de faire passer le message aux autres en fait de la confiance va aussi avec l'affirmation de qui on est, de ce qu'on souhaite. Donc je dirais le plus important c'est de savoir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour nous, pour nos enfants. Et ensuite de laisser personne venir perturber les choix qu'on a faits.
Magnifique.
Parce que souvent, quand j'accompagne les parents dans un projet de naissance naturelle, notamment, ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en leur bébé, ils ont confiance en leur corps. Et puis, une fois face à un personnel médical, cette confiance, elle s'envole parce qu'on a appris à faire confiance à l'autorité, à suivre l'autorité, et du coup, on oublie que, on a des vérités à l'intérieur de nous aussi. Et apprendre à affirmer ça, je pense que c'est une des clés principales quand on souhaite vivre une naissance naturelle, notamment dans une structure médicale, de vraiment venir avec cette confiance pour qu'elle se diffuse auprès des soignants et qu'il n'y ait pas la place pour venir perturber ce qu'on souhaite mettre en place, qu'on souhaite vivre à ce moment-là de la naissance. Trouve ça tellement dommage quand il y a des parents qui sont prêts, qui sont informés, qui savent ce qu'ils souhaitent pour eux et pour leur bébé. Et que, une phrase, un mot, une personne vient les empêcher de vivre s'ils étaient venus vivre.
Oui. C'est le mot peur qui me vient là, en fait. C'est quand on a peur, on est soumis finalement. On veut protéger, c'est sûr.
Ouais, c'est l'ennemi de la confiance. Elle peur. Et elle est présente partout dans notre société, cette peur. Dans beaucoup de choix qu'on peut faire. Donc oui, combattre la peur par la confiance.
Magnifique, magnifique. Merci beaucoup Marie pour cet épisode très beau, très inspirant. Et pour la présence aussi de ton bébé et de ta sœur qui, j'ai bien compris, elle n'est pas loin. Comment
Tout à fait.
s'appelle-t-elle?
Lise.
Élise, ok. Super. Merci Marie.
Merci à toi, Cécile, et merci pour ton travail. C'est beau ce que tu fais pour les familles.
Toi aussi. Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt!